심리의 성 B의 아버지
Dehors, cela fait des heures qu'il pleut, une bonne grosse pluie forte d'automne. Dans la petite pièce obscure, assis devant la table qui se trouve près de la fenêtre, Alain Dumont écrit, lui aussi depuis des heures, avec fougue, sur un cahier d'écolier. Ses pensées vont plus vite que sa main, ce qui l'énerve, car il a peur de les perdre. Il a chaud, la gorge serrée, aimerait pouvoir arrêter, car il est fatigué, mais il ne peut pas, tant que son cerveau continuera à se déverser. Là, sur le papier, il raconte avec fougue son amour, ses colères, sa rage, ce qu'il y a pour Françoise. On entend le bruit de la pluie, mais lui ne l'entend pas. Il a fini. Il pose son stylo. Ses mains sont raides. Il se lève d'un coup. Il tire et sort de la pièce. Et entre dans la cuisine. Là, sur la table, se trouve une boîte en carton de cacao et une cuillère à soupe. Il ouvre la boîte. Emplit la cuillère et la met à la bouche. À chaque fois qu'il écrit, pour tenir le coup, il prend du cacao. Ensuite, il retourne dans la pièce. Il s'aperçoit que la pièce est sombre. Regarde l'heure à sa montre. 18h. Cela fait 6h qu'il écrit sans interruption. Pour se détendre, il fait les 100 pas dans la pièce. du vent, écran, mince, les cheveux châtains, les traits du visage fin, mais en rien énergique. Porte un pull marine et un pantalon noir. Il a 22 ans, travaille comme vendeur chez un libraire, mais rêve d'être écrivain. Demain, c'est lundi. Alain se réveille à 8h30 satisfait de son dimanche, car il a écrit tout ce qu'il devait écrire. La pièce où il dort est la même qu'où il écrit, car il habite en F1. Elle est de taille moyenne, tapisserie à fleurs, nilo au sol, beige, une fenêtre de... Devant la fenêtre, une table, chaise. Dans un côté, contre le mur, un lit à une place. De l'autre côté, une armoire à penderie. Bob 1960, fait bois. Sortant de la pièce, un petit couloir qui donne dans la cuisine et la salle d'eau. Alain sort de son immeuble à 9h30. C'est un vieil immeuble rue d'Algérie, près de la place des Terreaux. Sa librairie se trouve à deux pas de chez lui. Il ouvre le magasin. Et entre. Et va dans l'arrière-boutique ouvrir des cartons qui sont arrivés samedi. Il sort les livres. Contrôle le bon de livraison et les met dans les rayons. Arrive le deuxième vendeur, c'est Bernard Dumont, un jeune homme qui a le même âge que lui. Il est de taille moyenne, mince, blond, l'air de toujours sourire. Il va vers Alain, qui continue à ranger les livres. Salut Alain, salut Bernard, tu as passé un bon dimanche ? Oui, avec des copains et des copines, on est allé écouter un groupe rock à la MJC d'Oulin. C'est l'animateur de radio Canu, tu sais, de l'émission Prout, qui nous a donné les places. C'était bien ? Oui, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai écrit toute la journée de dimanche. Tu es dingue ! Je n'y peux rien, c'est comme une maladie, une fièvre. J'ai besoin de mettre sous le papier tout ce que j'ai dans la tête. Et que comptes-tu en faire ? Alain hausse ses épaules. J'aimerais pouvoir éditer mes écrits, mais ce n'est pas facile à trouver une maison d'édition. Demande au patron. Il ne connaît que de toutes petites éditeurs qui n'ont pas beaucoup de moyens. Les frais d'impression seraient à ma charge et les livres ne seraient distribués que dans peu d'endroits, juste à Lyon et la proche banlieue. Je me ruinerais pour rien. Tous les mardis soirs, Alain va passer la soirée chez Françoise Le Sieur. Elle habite un appartement dans un immeuble cossu, rue de Grande-Bretagne. Il sonne à sa porte. Une jeune femme dans les 20 ans, grande, mince, blonde avec des cheveux qui ondulent jusqu'aux épaules, les traits du visage fins, elle porte un déshabillé en satin blanc. Bonjour Françoise. Bonjour Alain. Entrez. C'est ce qu'il fait. Elle ferme la porte. Il la prend dans ses bras et lui donne un baiser sur la joue. Qu'est-ce que tu es brusque ? Lâche-moi ! C'est ce qu'il fait. Elle le mène au salon. Les murs de son appartement sont blancs. Les meubles modernes grande classe, métal, verre et cuir noir. Elle le fait asseoir sur un fauteuil. Elle se met à côté de lui, à terre. Devant eux se trouve une table basse. Elle regarde ses mains et soupire. Cela ne t'ennuie pas de venir toutes les semaines comme cela? Il rougit. Non, ça me fait plaisir d'être avec toi. Elle hausse les épaules. Tu parles? Il soupire et lui dit. Moi, ça m'ennuie. Il rougit. Elle le voit. Ne fais pas cette tête-là. Mais j'ai besoin d'autre chose. Elle le regarde. Ne sois pas triste. Tu es toujours mon ami. La preuve, je te reçois. Mais je ne t'aime pas. Et tu le sais. Tu as rencontré quelqu'un d'autre? Même si j'avais rencontré quelqu'un, est-ce que ça changerait entre nous? Et puis, depuis que l'on se connaît, j'en ai connu du monde. Et tu es toujours là. Les autres n'y sont plus. Elle se lève. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Si, allez, tu prendras la même chose que moi. Elle va à l'autre bout de la pièce où se trouve le bar tout en verre. Elle prépare un petit cocktail qu'elle met dans deux verres et revient vers Alain. Lui donne son verre et met le sien sur la table basse. Le verre s'achène et met un disque.
Ou peut-être une nuit.
J'adore Barbara. Puis elle retourne vers Alain, s'asseoir à côté de lui et lui dit : je pars dimanche matin, j'ai des photos à faire à Paris. Pendant une semaine, je serai là-bas. C'est pour Marie-Claire, robe d'été. Je te laisserai les clés. Tu mettras le courrier sur la table de la cuisine. Et n'oublie pas d'arroser les plantes. Voilà, voilà. J'ai pas tellement envie d'y aller, mais enfin, puisqu'il le faut. Elle regarde sa montre. Oh, déjà. Elle se lève. Tu m'excuseras, mais ce soir, je suis crevée. Ne fais pas de cette tête. Bon, ce soir, pas de cadeau. De toute façon, faire des cadeaux quand on n'a pas envie, ce n'est plus un cadeau. Et puis j'ai mes règles. Hein? Elle lui tend la main. Il se lève.
L'oiseau roi couronné. diamants bleus. Ce sont bec, il a touché ma joue.
Elle leur accompagne jusqu'à la sortie.
Comme avant, dans mes rêves d'enfant.
Devant la porte, il l'embrasse. Pas si fort. Je ne vais pas m'en aller. Il la lâche. Elle lui donne les clés et ouvre la porte. Merci. Et il part. Tristesse est plus grande qu'il ne le faudrait, car il n'a pas pu la posséder. Arrivé chez lui, une énorme excitation le prend. Il ne peut la dominer qu'en se masturbant dans son lit. Le lendemain, ce sera avec son stylo qu'il écrira sa fureur. Dès le lundi, il va tous les soirs relever le courrier de Françoise et arroser ses fleurs. Cela le calme. Tous les reproches qu'il a sur elle s'estompent. Il la transforme en une Françoise idéale, sublime. Après avoir arrosé ses fleurs, il reste un moment assis au salon, à rêvasser. La semaine a passé, Françoise est revenue. Il va la voir mardi soir. Il le reçoit en déshabillé rouge et tout excité. Une fois qu'ils sont assis, comme d'habitude, elle lui dit « Maintenant, je peux te le dire, parce que c'est du sérieux. Il y a quelques mois, j'ai fait la connaissance d'un homme charmant. Je l'aime, nous nous aimons, nous allons vivre ensemble, ici. » Elle le regarde. « Ne fais pas cette tête, rien ne changera pour nous. » Sauf que nous verrons un peu moins souvent. Il a la salive et dit « Ça fait longtemps que vous vous connaissez ? 6 mois. 6 mois et je ne le savais pas. » Elle se lève. « Peux boire ?» Il fait vouille la tête et elle va au bar. Se dit, elle m'a pris pour un imbécile durant 6 mois. Elle m'a joué la comédie. Elle lui tend un verre qu'il prend machinalement, le regard fixe dans ses pensées. Elle m'a pris pour un imbécile, la garce. Il serre tellement fortement le verre qu'il se brise dans sa main et les bris tombent à terre. Qu'arrive-t-il ? Rien. Et en la secouant, rien.
Alors lâche-moi.
Non. Il continue à la secouer. Garce, tu t'es joué de moi. Tu seras à l'autre.
Arrête. Arrête.
D'un geste brusque, il la renverse à terre.
Hey, tu es fou.
Non, je t'aime bien. Il se plaque contre elle. Elle essaye de se dégager.
Lâche-moi.
Non. Il essaye de l'embrasser. Elle tourne la tête. Pour maintenir la tête, il la prend au menton et l'embrasse sur les lèvres. Puis, en une seconde, tout en l'embrassant, sa main descend au cou et là... Il serre jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Il s'en relève. La regarde, inerte, range son costume et ses cheveux, reprend son souffle et sort du salon. Et de l'appartement. Dehors, tout en marchant, il réfléchit et se demande pourquoi il a serré le cou. Lorsque je l'ai fait, je n'étais pas pris de fureur. Non, quelque chose me l'a fait faire comme ça, sans motif. Malgré la situation, j'ai pas fait par jalousie un crime gratuit. Oui, j'étais jaloux, furieux, mais lorsque je l'ai fait, ce n'était pas à cause de cela. C'était pour rien. Suis-je fou? Je ne crois pas. Je dois faire attention à mes instincts. Peut-être. Est-ce que chaque homme peut agir de cette façon? Si la morale n'était pas là pour réprimer. Devant chez lui. C'est bizarre. Maintenant, je ne l'aime plus. Elle ne représente plus rien pour moi. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Je n'ai pas de remords non plus pour ce que j'ai fait. Tout semble normal et calme en moi. C'est comme si ce soir, je venais de faire une petite promenade avant d'aller me coucher. Je ne l'avais jamais connu. Jamais connu. La vie reprit son cours pour lui, il ne fut pas inquiété, il continua à écrire, toujours sur des faits réels de ce qu'il voyait et entendait. « Le temps passe. 5 ans plus tard, il a déjà publié avec succès 3 livres à passer à caractère. Il a arrêté son métier de vendeur et écrivain de profession. Malgré tout, il n'a pas changé ses habitudes, habite toujours le même appartement. Malgré ses succès, il n'est pas très heureux, car il n'a pas encore trouvé l'âme sœur. Quelques conquêtes amoureuses, des illusions, ce qui lui a permis d'enrichir son œuvre et d'endurcir son corps. Un soir, il va à une invitation pour une soirée chez un gros industriel. Cela se passe dans une maison familiale du 19e, du côté de Charbonnières. Lorsqu'il arrive, la soirée bat son plein. Il regrette déjà d'être venu, mais trop tard, il ne peut pas s'en retourner. Le maître de maison l'a pris par la taille. C'est un gros homme, un peu folle, maniéré, chauve, la bouche en queue de poule. « Venez, je vais vous présenter à tous mes invités. » Il le mène au milieu du salon.
Bonsoir, Paul.
Tape dans ses mains.
Qui est-ce ?
Pour une belle fille, elle est pas mal.
Mesdames, messieurs, un peu d'attention, s'il vous plaît. J'ai le très grand honneur de vous présenter Monsieur Alain, le très talentueux auteur du Monde de Claire. Puis, nous avons aussi Monsieur Giacomo. Mais je vous présenterai plus tard. Une jeune fille s'avance vers Alain. Elle est grande, mince, blonde, un visage peint, juvénile, semble avoir dans les 20 ans. Elle porte une robe du soir blanche. Je m'appelle Nathalie Lyon. J'aime beaucoup ce que vous écrivez. On sent que vous avez beaucoup souffert. Le maître de maison lui dit « Je vous laisse !» Et il s'éloigne. La jeune fille rougit un peu et dit « Je trouve que les femmes dans vos romans sont vraiment cruelles. Je ne les aime pas. Par contre, vos héros m'émeut. Je les trouve beaux de caractère. » Cela touche beaucoup Alain, car les héros de ses livres, c'est lui, bien entendu. « Merci, mademoiselle. » Elle lui dit aussi, « Vous semblez aussi bon que vos héros. Merci. » Si mes héros avaient connu une jeune fille comme vous, ils auraient été plus heureux. Vous êtes si belle et douce. Il reste une seconde sans se parler, puis, pour ne pas la perdre, il l'invite à danser.
Maintenant, t'as le choix. Ou tu viens avec moi, je fais un scandale et je dis tout.
Thank you.
après la soirée qu'ils ont passée ensemble, se sont changé leur adresse et promis de se revoir. Arrivé chez lui, il est fou de joie. Et malgré l'heure tardive, il n'arrive pas à dormir. Il réfléchit dans son lit. Elle est vraiment merveilleuse. Si celle-là, je pouvais la voir, il semble que je lui plais. Pourquoi n'ai-je pas eu de chance en amour jusqu'à présent? Parce que j'étais aveuglé par l'objet de mon amour. Et cet objet n'était pas digne de moi. Mais elle, oui. Ils sortent souvent ensemble, s'apprécient. Elle vit seule, orpheline, travaille dans une radio comme secrétaire de direction. Il se met à l'aimer et à la respecter. Elle a l'air si fragile. Elle l'aime aussi. Un soir, pour lui dire bonsoir, il lui a donné un baiser. Puis, il lui a pris la main et ont marché ensemble. Un jour, il lui a dit en marchant dans la rue, « Puisque nous nous aimons et que nous sommes libres, pourquoi ne pas nous marier ?» Elle s'arrête, lui aussi. Elle lui met la tête sur son épaule et ils ont continué à marcher. Deux mois plus tard, ils étaient mariés. Mariage dans l'intimité, mariage heureux et tendre. Elle était vierge, il la comble de tendresse et d'amour. Ils sont partis en voyage de noces en Italie. Le temps passe. Ils sont très heureux tous les deux. Durant des mois, Alain n'a pas écrit. Il n'en a nulle envie ou rien à écrire. Malheureusement, son éditeur, qui est une maison très puissante, lui demande un autre roman. Car d'après le contrat qu'il a signé, il doit encore un roman. Alain décide de se mettre au travail. J'écris vite. Cela ne va pas prendre beaucoup de temps. Il s'enferme dans son bureau. De son nouvel appartement, et là, il se met à sa table. Prend dans un tiroir, cahier, stylo. Et attend. Rien ne vient. Rien. Les jours passent, les semaines, rien, toujours rien. des jours à faire les 100 pas dans son bureau, à réfléchir. Que lui arrive-t-il ? Il y a qu'il est heureux depuis quelques mois, et comme tous les hommes heureux, sa vie n'a pas d'histoire. Le calme plat. Et comme il est incapable d'inventer une histoire, que tout ce qu'il écrivait était des choses vécues. Alors il cherche dans son cerveau quelque chose dans sa vie qu'il ne se serait pas servi. Les jours passent. L'éditeur s'inquiète, sa femme aussi attend que son cher mari se mette au travail. Il ne peut pas la décevoir tout de même. Que faire ? Après des jours et des jours et des nuits où il a tout cherché, même des personnages historiques, rien. Il va abandonner. Il en a honte pour sa femme qu'il aime tant et adore. Un soir, dans son bureau, lui revient un fait de sa vie qu'il n'a pas encore écrit, qu'il ne s'est pas encore servi, le sol. Mais osera-t-il ? Après une nuit de réflexion, comme il voit que c'est la seule chose qu'il peut écrire, il se met au travail. Et là, il décrit tout, n'oublie rien, même les interrogations des faits. Le livre est envoyé, accepté avec succès, la critique, le public est enthousiasme. Un succès de plus. Sa femme est très heureuse et lui aussi, mais il se demande quel sera le sujet du prochain livre. Ce qui l'énerve, et comme il comprend que c'est son bonheur avec sa femme qui le rend stérile, il se met à moins l'aimer. Un jour, qu'il est seul à la maison, l'on sonne à la porte. Il va ouvrir. C'est un homme, petit, maigre, à cheveux blancs, un père marine.
Je m'appelle Monsieur le Duc. J'ai lu votre livre et...
Entrez, je vous en prie. Il le fait entrer dans son salon. Le fait asseoir sur un fauteuil.
Voilà, je suis venu vous voir parce que ce que vous avez écrit... Je suis commissaire de police à la retraite et j'ai traité l'affaire que vous décrivez dans le livre. Je l'ai reconnue parce que vous avez laissé les noms et lieux exacts. Lorsque j'ai enquêté pour le meurtre, je n'ai pu trouver l'assassin. Sans le doute, ce devait être un de ses multiples amants. J'aimerais savoir comment vous avez su tout cela.
Alain lui dit, par intuition, après avoir lu l'affaire dans le journal.
Mais les journaux n'en ont pas parlé.
Alain se demande si son prochain roman aura comme sujet la mort d'un ancien commissaire ou les souvenirs d'un détenu. Thank you. Canut vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Le puits de la muse. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement, CVT.